VOA Afrique, le monde aujourd'hui.
VOA Afrique, édition du vendredi 22 avril 2022. Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Seboudia
et Nanit Talani.
Nous commençons par les titres.
En Guinée, deux ex-ministres écroués pour détournement présumé de deniers publics et enrichissement illicite.
Au Mali, la junte au pouvoir à Bamako campe sur son calendrier de transition de 2 ans.
Au Niger, débat ce vendredi au Parlement sur la présence de forces étrangères.
Au Kenya, rencontre aujourd'hui entre le gouvernement de Kinshasa et des rebelles de l'Est de la République démocratique du Congo.
Les rebelles tchadiens accusent la junte au pouvoir N'Djamena de faire traîner les négociations à Doha.
En Afrique du Sud, après une accalmie, nouvelle hausse des cas de Covid.
Le président américain Joe Biden annonce une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars pour l'Ukraine.
Nouveau heurt sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Et puis ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
En Guinée, deux anciens ministres ont été écroués et un autre placé sous contrôle judiciaire jeudi à Conakry pour détournement de deniers publics et enrichissement illicite. Le point avec Rosine Munezero.
L'ex-ministre de la Sécurité sous Alpha Condé, Albert Damantan Camara, et l'ex-ministre de l'Urbanisme, Ibrahima Kourouma, ont été placés sous mandat de dépôt à Conakry par la Cour de répression des infractions économiques et financières, selon un de leurs avocats, Amara Bangoura. Aussi, Mamadi Camara, un ancien ministre de l'économie sous M. Condé, a été placé sous contrôle judiciaire. Ils sont poursuivis pour détournement et complicité de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, corruption et blanchiment, a précisé Maître Bangoura. Par ailleurs, la CRIF a examiné jeudi une demande de liberté provisoire en faveur de l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, des anciens ministres de la Défense Mohamed Diané, de l'Environnement Oye Gilavogui et des Hydrocarbures Zakaria Koulibaly, a indiqué Maître Bangoura. La décision a été mise en délibéré au 26 avril. Ces quatre ex-responsables ont été arrêtés le 6 avril pour détournement présumé de fonds publics.
Au Mali, la junte au pouvoir à Bamako a annoncé hier le lancement d'un processus de transition de 2 ans. La CEDEAO avait demandé d'organiser des élections en 16 mois maximum, Michel Joseph.
Le Premier ministre Cheguel Maïga a déclaré devant le Conseil national de la transition que Bamako espère trouver un accord avec la CEDEAO, mais qu'après 3 mois de discussion, il a décidé de ne plus attendre. À partir de cet instant, nous engageons le processus de mise en œuvre du plan de transition pour les 2 ans qui ont été retenus par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. A-t-il ajouté. La CEDEAO demande la tenue d'élections dans 12 à 16 mois. La Guinée, le Burkina Faso et le Mali ont été suspendus de ces instances et le Mali subit de lourdes sanctions. M. Maïga les a qualifiés d'embargo qui violent les propres textes de la CEDEAO. Malgré ces tensions, il a assuré que le contact n'est pas rompu et que des missions sont prévues à Bamako dans les prochains jours pour tenter de parvenir à un accord.
Le Kenya accueille aujourd'hui une rencontre entre les rebelles de l'Est de la République démocratique du Congo et le gouvernement de Kinshasa. L'annonce a été faite hier par la présidence kényane. Les précisions d'Abdourahmane Dia.
Des dirigeants du Kenya, de l'Ouganda, du Burundi, du Rwanda et de la RDC se sont retrouvés hier jeudi à Nairobi pour discuter de l'insécurité dans l'Est de la RDC. La présidence kényane a annoncé dans la foulée que Kinshasa va organiser une rencontre consultative avec des rebelles aujourd'hui à Nairobi. Le président kényan, Uhuru Kenyatta, a accepté d'accueillir et de fournir un soutien logistique aux consultations à Nairobi, a indiqué la présidence, sans nommer les groupes rebelles invités à ces discussions. Elles interviennent peu après l'intégration fin mars de la RDC à la Communauté des États d'Afrique de l'Est, une organisation régionale dotée d'un marché unique pour la libre circulation des biens et des personnes. Selon la présidence kényane, au cours de leur réunion hier, les dirigeants ont cherché à mettre en place une force régionale pour neutraliser les rebelles actifs dans la région. De récents combats ont opposé dans l'est de la RDC l'armée congolaise aux rebelles du M23 qui ont annoncé le retrait des villages conquis, disant souhaiter un règlement pacifique de la crise.
Tchad, les groupes armés ont accusé hier les autorités de N'Djamena de faire délibérément traîner en longueur les négociations de paix à Doha entre les rebelles et la junte au pouvoir dans leur pays. Accusation qualifiée d'injuste et de mauvais procès par Abdelrahman Koulamala, porte-parole du gouvernement nommé par la junte.
Ce pré-dialogue de Doha, ouvert à une cinquantaine de groupes armés, promis depuis de longs mois et initialement prévu le 27 février, avait été repoussé à la dernière minute au 13 mars. Il doit les amener à la table d'un dialogue national inclusif prévu le 10 mai avec les oppositions politiques et armées, censées déboucher sur une nouvelle constitution et des élections libres et démocratiques.
Covid-19, après une accalmie, l'Afrique du Sud enregistre une nouvelle hausse des cas avec 4406 contaminations recensées au cours des dernières 24 heures. Selon les autorités sanitaires jeudi, cette hausse reflète une augmentation de 15,8% du taux de positivité. L'Afrique du Sud est officiellement le pays du continent le plus touché par le virus, avec plus de 3,7 millions de cas et plus de 100 200 morts.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des nouveaux heurts entre policiers israéliens et manifestants palestiniens ont éclaté ce matin sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem, selon l'AFP. Tôt ce matin, les forces de police israéliennes sont entrées sur l'esplanade, troisième lieu saint de l'islam et aussi le site le plus sacré du judaïsme sous son nom du Mont du Temple, et des jeunes palestiniens ont lancé des pierres dans leur direction, a constaté un journaliste de l'AFP qui a fait état de quelques blessés.
Le président russe Vladimir Poutine a affirmé hier que ses forces ont pris le contrôle de la ville ukrainienne de Mariupol, port stratégique de la mer d'Azov. Les précisions de John Linden.
La fin des opérations militaires de libération de Mariupol est un succès, a dit Vladimir Poutine à son ministre de la Défense, Sergei Shoigu, au cours d'une rencontre diffusée à la télévision nationale russe. Il est contestable qu'il contrôle Mariupol, a déclaré le président Joe Biden. Selon lui, il n'y a encore aucune preuve que Mariupol soit complètement perdu. Les autorités ukrainiennes ont indiqué hier matin que les forces russes ont poursuivi leurs tirs d'artillerie sur toute la ligne de front dans le sud du pays. De nouvelles frappes ont eu lieu à Mykolaiv, sur la route d'Odessa, selon son gouverneur Vitaly Kim. Dans le Donbass, les autorités ukrainiennes ont souligné jeudi que les tirs d'artillerie sont constants avec des combats intenses dans la région d'Izium et des bombardements incessants à Bopasna et Rubidjene dans la région du Lungas.
Pour sa part, le président Biden a annoncé hier une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars pour aider l'armée ukrainienne à repousser les forces russes du Donbass, ainsi qu'une aide économique supplémentaire de 500 millions de dollars au gouvernement de Kiev. M. Biden a juré que Vladimir Poutine ne réussira jamais à occuper l'Ukraine.
Le Texas, dans le sud des États-Unis, a exécuté hier Carl Bunchen, 78 ans, son plus vieux condamné à mort, malgré des appels à la clémence d'opposants à la peine capitale. Il a été reconnu coupable du meurtre d'un policier il y a plus de 30 ans.
En revanche, au Tennessee, le condamné à mort Oscar Smith, 72 ans, le plus vieux de cet autre État du Sud, a lui bénéficié hier d'un sursis temporaire en raison d'un oubli dans la préparation de l'injection létale. Il a été reconnu coupable du meurtre en 1989 de son épouse, dont il était séparé, et des deux fils de cette dernière.
L'ancien président du Honduras, Juan Orlando Hernández, a été extradé jeudi vers les États-Unis, où un tribunal de New York entend le juger pour sa participation à un gigantesque trafic de 500 tonnes de cocaïne entre 2004 et 2022. et pour lequel il encourt la perpétuité.
En Afghanistan, au moins 16 personnes ont été tuées et des dizaines blessées jeudi dans deux attentats revendiqués par le groupe État islamique, deux jours après une attaque contre une école d'un quartier chiite de Kaboul.
En France, le président Emmanuel Macron et Marine Le Pen jettent ce vendredi leurs ultimes forces dans la bataille au dernier jour de la campagne pour le second tour de la présidentielle dimanche. Les deux candidats sont partis à la chasse aux électeurs du candidat de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième au premier tour avec près de 22% des voix.
Marine Le Pen promet de protéger les plus vulnérables pendant qu'Emmanuel Macron promet de faire de l'écologie l'alpha et l'oméga de sa politique.
La Minute Éco, Eric Manirakidza.
En 2022, le Niger va enregistrer la plus forte croissance d'Afrique, rapporte l'agence Ecofin. Dans son dernier rapport sur les perspectives économiques mondiales, le FMI a relevé ses prévisions de croissance 2022 pour l'Afrique subsaharienne à 3,8%. Comme le Niger, 6 autres pays africains devraient enregistrer une croissance supérieure à 6% cette année. La Chine, principal pays créancier des pays pauvres, s'est engagée à travailler de manière constructive sur la restructuration de leurs dettes, a souligné jeudi la directrice générale du FMI. Au début de la pandémie de Covid-19, les pays riches du G20 avaient offert aux pays pauvres un moratoire sur le paiement du service de leurs dettes jusqu'à la fin de l'année, avant de le prolonger jusqu'à la fin 2021. Parallèlement à cette initiative, le G20 avait créé en novembre 2020 un cadre commun destiné à restructurer, voire annuler la dette des pays qui en feraient la demande. Mais pour l'heure, les créanciers privés, en particulier chinois, freinent sa mise en œuvre. Une interdiction par l'Europe des importations de gaz et pétrole russe risque de faire flamber les prix de l'énergie dans le monde, a averti jeudi la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, appelant à réduire la dépendance européenne sans pénaliser la planète entière. Elle a toutefois réaffirmé que le produit des ventes de pétrole et de gaz est une importante source de revenus pour la Russie et qu'il serait très utile d'essayer de trouver un moyen de réduire les recettes russes. Les pays européens cherchent à réduire leur dépendance au pétrole et au gaz importé de Russie pour la sanctionner après l'invasion de l'Ukraine.
Merci Eric. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Les matchs retour des quarts de finale de la Ligue des Champions débutent ce vendredi. Deux rencontres au programme après le match nul 0-0 à l'aller. Les Tunisiens de l'Espérance de Tunis reçoivent les Algériens de l'Entente Sétif ce soir. Il y a un choc à ne pas manquer à Casablanca entre le Raja et les Égyptiens d'Al Ahly. À l'aller, les Marocains se sont inclinés au Caire 2-1. Demain samedi, les autres Marocains du Wydad Casablanca voudront conforter leur score à l'aller 1-0 face aux Algériens du CR Belouizdad. Toujours samedi, les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns accueillent les Angolais de Petro Athletic. Ces derniers ont remporté la manche aller à domicile 2-1. L'ancien international guinéen Kaba Diawara a été confirmé au poste de sélectionneur de la Guinée, annoncent les responsables du football du pays. Kaba Diawara a été choisi parmi 4 candidats et jugé plus à même de conduire l'équipe nationale vers les performances attendues, déclare Sega Diallo, vice-président du comité de normalisation qui gère les affaires courantes de la Fédération guinéenne de football. L'ex-joueur de Bordeaux, du Paris Saint-Germain et d'Arsenal, entre autres, avait été désigné sélectionneur intérimaire du Sili National à 3 mois de la CAN organisée au Cameroun. Il succède ainsi au Français Didier Six, qui était en poste depuis 2019. En Angleterre, le Néerlandais Erik ten Hag, actuellement à la tête de l'Ajax Amsterdam, sera l'entraîneur de Manchester United à partir de la saison prochaine. L'annonce est faite par le club anglais qui précise que le coach de 52 ans s'est engagé jusqu'en 2025 avec une saison supplémentaire en option. Deux fois champion avec l'Ajax, qui l'a amené en demi-finale de la Ligue des Champions en 2019, Ten Hag est connu pour son sens du détail et sa capacité à faire basculer les matchs par des changements tactiques. Il est aussi réputé pour son grand calme et son caractère protecteur envers ses joueurs. Après le limogeage d'Ole Gunnar Solskjaer fin novembre, Manchester a nommé Ralf Rangnick pour la fin de la saison L'Allemand va ensuite prendre un poste de conseiller près du club.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Segulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, les personnels de la santé ont observé une grève générale, la mort d'une jeune femme enceinte à cause d'une négligence présumée du personnel de l'hôpital régional de Louga a déclenché des remous dans le secteur de la santé. Après les sanctions du ministère de la Santé et l'arrestation de 4 sages-femmes, les personnels ont décidé d'observer une grève totale pour alerter sur l'insuffisance des ressources humaines, matérielles et financières. De Dakar, notre correspondant Seydina Abagay.
Des salles d'attente vides, des salles d'hospitalisation vides, des salles d'accouchement, de garde et de soins fermées, c'est le calme plat à la maternité de Grand Yoff dans la banlieue de Dakar. Aucune sage-femme, aucune patiente. Ici, le mot d'ordre de grève est respecté à la lettre. Les syndicalistes estiment que l'arrestation des 4 sages-femmes de Louga est venue mettre le feu aux poudres. Sidi Ndiaye, vice-président de l'Alliance des syndicats en Dougassam.
Dans la précipitation, on a pris des mesures iniques, parce que c'est comme ça que nous le voyons. Aujourd'hui, ce sont des sages-femmes qui ont été incriminées. Or, les sages-femmes ont des supérieurs hiérarchiques. Nous disons que la justice doit faire son travail. Nous sommes d'accord, nous sommes ouverts à ce qu'il y ait une enquête sérieuse et indépendante, mais nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait une justice à géométrie variable. Or, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pourquoi il y a une révolte qui a été sonnée et nous allons nous battre pour que force reste à la loi et qu'on respecte les droits des uns et des autres.
Une révolte du secteur sanitaire qui fait des victimes collatérales. Malik Sow accompagne son père malade et hospitalisé.
C'est dur et je ne dis pas même pas aujourd'hui, mais ça fait des jours et je vois en tant que médecin aussi, pour faire des grèves comme ça aussi, c'est dur aussi pour sur les malades. Voir aussi des malades, des cas graves sans médecin et seulement par exemple des infirmiers, c'est dur même pour les accompagnants.
Une grève regrettable mais nécessaire pour alerter sur la situation dramatique que traversent beaucoup d'hôpitaux sénégalais, dont le vieil hôpital Aristide Le Dantec, créé en 1913, donc il y a un peu plus d'un siècle. Cet établissement sanitaire est au bord du gouffre, mais accueille chaque année entre 800 000 et 1 million de malades. Comme partout ailleurs, cela se reflète sur le personnel et sur la prise en charge des maladies. Professeur Alain Khassim Doy, chef du service d'urologie et président de la commission médicale d'établissement de l'hôpital Aristide Le Dantec.
La situation de l'hôpital Aristide Le Dantec en valeur absolue est grave. C'est qu'on n'est plus dans les conditions de délivrer des soins de qualité. Avec un retentissement important sur les malades, bien sûr, sur la prise en charge des malades, mais un retentissement important sur le comportement du personnel. Il y a un peu plus de 1000 agents qui cèdent le plus souvent au découragement ou aux mauvaises habitudes. Et parfois des comportements comme ceux qu'on voit à Louga, tout simplement parce qu'ils vivent une situation de stress.
En temps normal, l'hôpital Aristide Le Dantec couvre 26 spécialités médicales, jusqu'à 15 000 hospitalisations par mois et 6 000 à 8 000 interventions chirurgicales par an. Aujourd'hui, Le Dantec ne peut plus couvrir ses standards. Professeur Alain Khassim Doy, chef du service d'urologie et président de la commission médicale d'établissement de l'hôpital Aristide Le Dantec.
Il y a beaucoup de manquements sur l'infrastructure avec beaucoup de problèmes de travaux publics, des problèmes d'adduction d'eau. Il y a donc des problèmes d'électricité. On a eu des incendies. Il y a des problèmes de matériel. Nous n'avons plus de réseau informatique. C'est autant de choses qui rendent la gestion de cet hôpital très difficile.
Ainsi, le chef de l'État a décidé la reconstruction intégrale de l'hôpital Aristide Le Dantec. Le président Macky Sall a aussi demandé un rapport exhaustif sur la situation des structures de santé du pays et la finalisation d'un plan d'optimisation de la carte sanitaire et des offres de services de santé. Seydina Bagay pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au centre des préoccupations des dirigeants réunis hier à Nairobi au sommet de la communauté des États d'Afrique de l'Est, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et surtout la recherche des solutions aux revendications des rebelles du M23. Quelles sont les attentes de la population du Nord Kivu? Quelques éléments de réponse dans ce reportage de notre correspondant à Goma, Zanem Neti Zaidi.
La délégation congolaise qui prend part à ces sommets devrait être constituée à grande partie par les enfants des Rutshuru qui maîtrisent la situation. Justin Bizimana est l'un d'entre ces notables.
Il n'y a personne qui peut exprimer un problème comme celui qui est en train de le vivre. Et en principe, c'est une délégation qui devait quitter les territoires de Rutshuru pour effectivement donner la vraie version du problème et pourquoi pas peut-être proposer des solutions définitives à cette crise. Quand on prend quelqu'un de Kinshasa, et d'un coup, ce sont des décisions lourdes qui vont être prises et ça ne sera pas vraiment à l'avantage de cette population. Donc nous sommes vraiment en train de voir que c'est une peine perdue, un temps perdu.
Même position pour la jeunesse du territoire des Loubéraux. Gracieux Mourouvani, coordonnateur territorial de cette organisation des jeunes des Loubéraux.
Moi, je pense que les autorités politico-administratives ne maîtrisent pas les vrais problèmes qui se passent sur terrain, parce que ces dernières ne font pas de descente dans les milieux ruraux, dans les villages les plus reculés. Imaginez les autorités qui quittent Kinshasa pour venir se renseigner sur la situation sécuritaire de la province du Nord Kivu. Mais ces dernières s'arrêtent à Goma. Ces autorités ne doivent pas seulement s'arrêter à Goma, mais doivent faire des descentes dans les milieux ruraux, dans les villages.
Le 6 avril, le mouvement du 23 mars a retiré tous ses combattants des positions qu'elle avait conquises lors des affrontements avec le FARD dans les territoires des Rutshuru. Son porte-parole, le major Willy Ngoma, veut des réponses concrètes à leurs revendications qui d'ailleurs figureraient dans des accords déjà signés avec le gouvernement congolais à Nairobi.
Lorsque Tshisekedi Félix est venu au pouvoir, il nous a appelé à Kinshasa. Nous sommes allés, nous avons fait pratiquement 14 mois de négociations pour un peu harmoniser certains textes et nous avons trouvé un modus vivendi entre nous. Ce que nous attendons du gouvernement, c'est la concrétisation pure et simple des accords dûment signés.
Plusieurs activistes de la société civile et défenseurs des droits humains rappellent qu'il n'y a aucun prétexte pour justifier l'intégration des rebelles dans l'armée loyaliste. Patrick Riki Paluku est un activiste des droits humains.
Nous n'écartons pas l'option de négocier, par exemple, que si quelqu'un se sent qu'il est réellement congolais et qu'il est dans les M23, qu'il vient dans son village, qu'il s'intègre lui-même avec ou l'accompagnement, bien sûr, du gouvernement à travers les programmes de désarmement. Mais nous mettons, en tout cas, un point sur l'aspect de réintégration chaque fois des deux membres des groupes armés au sein de nos services de sécurité de l'armée. Et ça, nous ne sommes pas d'accord.
Pendant ces temps, dans les territoires de Rutshuru, la situation est relativement calme en attendant ce qui sortira du sommet de Nairobi. Zanem Netizaidi à Goma pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
Chacun peut faire une action pour la planète. C'est sous ce thème que la Journée mondiale de la Terre est célébrée ce vendredi 22 avril. L'occasion chaque année de sensibiliser les habitants de la planète aux problèmes qui l'affectent. Et parmi ceux-ci, la pollution des écosystèmes marins. Au Gabon, une coalition d'ONG est en action pour libérer les plages des déchets plastiques. Un reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Grace Zaou fait partie d'un groupe de bénévoles engagés dans la préservation des écosystèmes marins. Ils collectent les déchets plastiques sur le front de mer à Libreville.
On est répartis en deux groupes, le groupe A et le groupe B. Moi, mon premier groupe, on a collecté 54 sacs et nous n'avons pas encore estimé le poids total de tous les 54 sacs de déchets. Cette collecte de déchets sert justement à assainir cet environnement de tortues sur la plage Tahiti.
La dépollution des plages débouche parfois sur des découvertes.
On a trouvé un nid de tortues. Malheureusement, ce nid était encombré de saleté. Et donc, on a dû dégager le nid afin que lorsque la tortue puisse sortir, elle puisse retrouver son endroit d'origine, qui est la mer.
Obamingueza, c'est le nom du jeune garçon que vous venez d'entendre. Lui et d'autres défenseurs de l'environnement comme Florent Barbieri sont décidés à faire bouger les lignes.
Avoir un discours mais ne pas poser d'actes, ça sonne creux. Et que les gens nous voient faire, voient des gens agir, voient que oui, il y a des choses qui se font. Et voient qu'effectivement après la plage est plus agréable parce qu'on s'habitue à tout, y compris à la saleté. Et s'ils voient une plage propre et qu'ils sentent qu'elle est meilleure, ensuite ils auront peut-être, c'est dur à faire changer les mentalités, mais peut-être plus envie d'en prendre soin.
Bouteilles, bouchons, emballages alimentaires, sacs, fragments de plastique ou filtres de cigarettes déposés dans les océans par des affluents et des cours d'eau sont chaque jour rejetés par la mer sur les plages. Les experts et ONG alertent sur les conséquences des déchets sur la santé des populations. Julien Carrier, président de la Fédération des ONG Okiri.
Beaucoup de tortues, malheureusement, meurent en mer du fait qu'elles ingèrent des sacs plastiques, des pailles en plastique. Or, la tortue marine est un animal marin. Nous nous nourrissons aussi de beaucoup d'animaux marins, principalement en poisson plus que tortue, j'espère. Donc, simplement, le poisson que l'on mange et fait la même chose, ingère du plastique. Or, nous, quand on mange le poisson, évidemment, on ingère de nouveau le plastique que nous avons nous-mêmes fabriqué. Il y a un risque énorme de santé, puisque de plus en plus d'études scientifiques font le lien entre plastique et cancer. Donc, plus nous mangeons de plastique, plus nous risquons d'avoir de cancer.
L'année dernière, les experts des écosystèmes marins disent avoir repéré plus de 300 nids de tortues sur cette plage de Tahiti, au nord de Libreville. Leur habitat naturel est à la merci des prédateurs. Libreville, Ismaël Obionze pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ici aux États-Unis, une nouvelle manifestation a eu lieu hier à Lansing, dans le Michigan, où un jeune réfugié congolais, Patrick Lioya, a été tué lors d'un contrôle routier au début du mois. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur l'incident, dernier drame en date d'une longue liste de Noirs tués par des policiers aux États-Unis. Des funérailles auront lieu aujourd'hui même dans la ville de Grand Rapids avant l'inhumation de Patrick Lioya. Marius Muhunga et Thierry Kaoré ont rencontré Ngandou Amissi, président de la communauté congolaise de Michigan West.
Les dossiers sont en cours. Il y a l'avocat Ben Cramp qui avait initié l'autopsie pour la famille. Et nous attendons les résultats.
Est-ce qu'il y a une délégation officielle qui vient de Kinshasa?
Certainement, on attendait la délégation à travers le ministre des droits humains, mais pour le moment, je pense qu'il ne vient plus, pour des raisons que moi-même je ne connais pas. Il y a des manifestations qui ont précédé avant ça, je peux dire plus de 10, depuis l'assassinat le 4 avril de cette année. Et ça se poursuit et ça va continuer à se poursuivre. On aura une autre manifestation avant l'enterrement demain et tout de suite là, dans une heure à Lansing, dans la capitale de Michigan, avec la communauté congolaise et le Black Lives Matter qui vont se manifester aujourd'hui.
Alors, la famille, on a entendu parler de l'autopsie initiée par la famille. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, certainement. Et l'autopsie a été initiée par la famille parce que la famille n'avait pas confiance à l'autopsie de la police. L'autopsie a été déjà faite, mais on n'a pas encore le résultat. Mais selon l'avocat Ben Cramp, il est en train de travailler là-dessus. Je ne sais pas quand il va sortir le résultat qui pourra peut-être soit soutenir ou contredire ce que la police avait fait.
Et que dit l'autopsie de la police?
Jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore au courant de l'autopsie de la police. Je ne sais pas exactement, ça sort quand, je n'ai pas une idée, mais deuxième autopsie initiée par la famille, c'est déjà fait. Et peut-être bientôt le résultat va sortir.
C'était Ngandou Amissi, président de la communauté congolaise de Michigan West, au micro de Marius Muhunga et Thierry Kaoré.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde d'aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Segulia et de Nani Talani. Michel Joseph était à la mise en onde et Kelvin Fowler à la console. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour en suivre de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.